19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonsoir chers amis auditeurs, quel plaisir de vous retrouver. Vous le savez, comme chaque soir, nous sommes ensemble ici même pour commenter, décrypter et analyser l'actualité. Alors au menu de ce soir, je vous propose de vous embarquer jusqu'à 20h ensemble. D'abord, une interview avec quelqu'un qui viendra ici même, évidemment, nous parler de l'enjeu, comment débriefer Patrick Farbiaz, cofondateur de PEPS pour une écologie populaire et sociale. Nous reviendrons très longuement sur le déplacement du chef de l'État Emmanuel Macron. Ensuite, avec les débattants influenceurs, nous reviendrons aussi, bien sûr, sur cette actualité. Emmanuel Macron à Ramallah, la rencontre avec Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. Nous reviendrons sur le chef de l'État en Jordanie, mais également aussi cette déclaration en Égypte. Bref, éviter l'escalade, bâtir une initiative de paix et de sécurité, traiter les causes de ce que nous vivons, c'est les déclarations d'Emmanuel Macron. Nous prendrons le temps d'en parler. Avec vous, 01 53 48 3000, chers amis auditeurs et auditrices, vous savez, vous avez été très nombreux et je voudrais qu'on consacre aujourd'hui plus de temps à votre espace pour livrer votre opinion. 01 53 48 3000, vous pouvez nous appeler d'ores et déjà au standard dès maintenant. Eh bien, je vous prendrai dans quelques minutes en direct. Allez, c'est tout de suite, c'est parti, c'est maintenant et vous le savez, en toute liberté d'expression.
Les informés. L'interview.
On démarre cette émission des informés avec, vous savez, Monsieur Patrick Farbiaz. Patrick Farbiaz, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de PEPS. Rappelez-nous ce que c'est que PEPS, tout d'abord, Monsieur Farbiaz.
Bah, écoutez, c'est un mouvement.
Parlez bien devant votre combiné, on vous entend pas du tout, mon cher Patrick. Hein. Désolé, mais on vous entend pas du tout en direct. Hein.
Et là, vous m'entendez là ?
Ah, encore moins ! Alors là, j'ai l'impression que vous êtes au bout de la terre.
Je suis devant mon téléphone là.
Je vous promets qu'on vous entend. C'est pas audible du tout à l'antenne. Hein. Non.
Ah, mais c'est incroyable puisque moi je vous entends bien.
Non, j'ai l'impression que le son est écrasé. On va essayer de réparer ça. Je sais pas du tout ce qui se passe. Vous avez la possibilité de prendre votre combiné et de parler devant le combiné ou pas du tout?
Mais je suis devant mon.
Ah là, c'est mieux. Ah là, c'est mieux. Oui, là oui.
Il n'y a rien de changé. Hein,
si, il y a un truc, il y a eu un changement, je pense. Mais bon, c'est pas grave. Alors, tout d'abord, Patrick Farbiaz, merci d'être avec nous. Rappelez-nous ce que c'est que PEPS.
Oui, c'est une petite organisation qui s'appelle Pour une écologie populaire et sociale, qui a été créée il y a 4 ans et qui est un mouvement d'écologie anticapitaliste, un mouvement d'écologie de rupture qui essaye de, sur tous les plans, sur l'écoféminisme, l'anticolonialisme, la question sociale, de faire converger un peu toutes ces luttes et de donner un sens à l'écologie politique qui malheureusement aujourd'hui est trop souvent indécise, indéterminée face aux mouvements sociaux ou à la géopolitique du monde, quoi, pour aller vite. Voilà.
Alors, vous avez fondé aussi, notamment, me semble-t-il, la semaine anticoloniale. Hein.
Oui, et puis j'ai également été, c'est pour ça que je peux parler un peu de ces choses, responsable très longtemps de la Commission internationale des Verts. Quand j'y étais, j'ai été pendant 25 ans aux Verts. Et j'ai été à ce titre-là, d'ailleurs, représentant international des Verts à Gaza et en Palestine vers 1999-2000 pour affirmer le soutien à l'époque, en tout cas, des Verts à la résistance palestinienne. Quoi. Voilà.
Alors, on va parler justement, vous savez, du déplacement du chef de l'État Emmanuel Macron, justement, à la fois à Ramallah, en Israël, mais également aussi en Jordanie, puis en Égypte. Alors, dites-moi, tout d'abord, qu'est-ce que vous retenez de ce déplacement d'Emmanuel Macron, le chef de l'État? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand je vous pose la question? Finalement, est-ce qu'on retient quelque chose de ce déplacement, Patrick Farbiaz?
Ah bah oui, on retient une proposition totalement farfelue, qui est celle de faire une coalition antiterroriste contre le Hamas pour essayer de faire ressembler cette coalition à ce qui s'est fait contre Daesh, alors qu'on n'est pas du tout dans la même situation et que d'un côté il y a une lutte avec laquelle dont les méthodes sont certainement à condamner parce que ça débouche sur des crimes de guerre, mais qui est une lutte en même temps qui est celle du peuple palestinien, et c'est une lutte de résistance. Et donc mélanger ça à Daesh est tout à fait non seulement ridicule, mais profondément scandaleux, parce que ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que, en fait, le peuple palestinien, on le réduit à une lutte contre le mal, à une lutte contre d'une guerre de civilisation, d'une guerre de la religion, alors qu'aujourd'hui, ce qui est en cause, c'est une guerre de territoire. C'est, je veux dire, le problème depuis 1948 et même depuis la déclaration Balfour 1917, c'est d'abord, est-ce que le peuple palestinien a le droit à un État, a le droit à sa terre? Ou est-ce que voilà, c'est ça le
alors, sujet, lorsque vous nous dites ça, lorsque vous nous dites cela, Fabien Farbiaz, je comprends, moi, que j'ai le sentiment que c'est hautement inflammable dans le monde arabe lorsque vous nous expliquez ça. Donc ça veut dire, en gros, ces déclarations sont à la fois inflammables mais surtout inaudibles en Palestine.
Exactement, c'est complètement inaudible. Et ça va, à mon avis, ça va faire que beaucoup de gens, non seulement dans le monde arabe, mais y compris ici, vont être encore plus furieux de la position de la France, qui, c'est une rupture avec la position traditionnelle, hein, qui avait été élaborée depuis De Gaulle, quoi, hein, qui avait été suivie par Mitterrand, et Chirac. Et donc c'est une véritable rupture qui avait commencé d'ailleurs avec Sarkozy et qui s'était un peu amplifiée avec Hollande, mais là on atteint des sommets d'alignement sur même pas sur Washington d'ailleurs, parce que Biden a été plus précautionneux que Macron. Là il y a un alignement sur Netanyahou, quoi.
Alors, dites-moi, Fabien Farbiaz, justement, ça se passe, donc, cette déclaration, lorsqu'il était de passage en Israël. La rencontre, quel bilan vous tirez, vous dressez vous-même, lorsque cette rencontre, on voit la rencontre avec le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, mais également celle de la rencontre avec le roi de Jordanie et en Égypte, avec le président Sissi?
Bah, écoutez, c'est normal que le président français aille dans la région et ne s'arrête pas seulement à Jérusalem, quoi. Enfin, disons dans l'État d'Israël, ça, je suis pas, personne ne sera contre, quoi. C'est essayer un peu de montrer qu'on s'adresse à tous les interlocuteurs. Mais au-delà de ça, faut voir qui il rencontre. Mahmoud Abbas aujourd'hui est totalement discrédité du point de vue du peuple palestinien. Depuis 17 ou 18 ans qu'il est au pouvoir, d'abord il n'y a eu aucune élection, ensuite il a servi les intérêts de l'État d'Israël, et enfin tout le monde sait le degré de corruption auquel il est, quoi. Et ça, premièrement. Deuxièmement, il va voir le roi de Jordanie, mais le roi de Jordanie, dans cette histoire, ce qu'il veut éviter surtout, c'est une nouvelle Nakba, c'est-à-dire que c'est un des dangers de la situation actuelle. Un des dangers de la situation actuelle, c'est que les colons profitent de ce qui s'est passé le 7 octobre pour expulser des milliers, voire des dizaines, voire des centaines de milliers de Palestiniens en Jordanie, qui a toujours été le projet de l'État colonial et surtout de l'extrême droite coloniale israélienne. Et ça, c'est très très grave, parce que personne ne regarde en ce moment, mais il y a déjà eu plus de 100 morts. Et on a donné des armes, des milliers d'armes aux colons, et en ce moment la situation est extrêmement dangereuse sur ce front-là. Et donc le roi de Jordanie, ce qu'il veut, c'est pas se retrouver dans la situation où il était en 70, quand il a massacré 30 000 Palestiniens, hein, par ailleurs. Bon, ce qu'on appelait Septembre Noir. Et puis il va voir Sissi, il est dans la même préoccupation que le roi de Jordanie. Il veut surtout pas que un exil des Palestiniens de Gaza dans le désert du Sinaï, et il veut éviter à tout prix ça, et donc il a lui aussi intérêt à essayer de rencontrer Macron et tous les dirigeants de ce monde pour éviter ça. Mais rappelons quand même que Sissi, c'est quand même un dictateur, hein, qui réprime impitoyablement son peuple, quoi. Hein. Donc voilà, Je dis pas qu'il fallait pas aller voir ces gens-là, mais il faut savoir qui sont ces gens-là, quoi.
Autre colère, Patrick Farbias, justement, vous, le cofondateur de PEPS, vous savez, Israël qui est en colère après les propos du secrétaire général de l'ONU, hein, monsieur de Guterres, sur les violations du droit humanitaire à Gaza. Alors, est-ce qu'on peut parler là, d'ores et déjà, hein, puisque vous le savez peut-être, hein, Israël demande clairement la démission d'Antonio Guterres.
Et Guterres n'a fait que son job, je dirais. Et il a fait que son job parce que...
Donc c'est un clash aux Nations Unies, on peut le dire.
Comment ?
Un gros clash est désormais aux Nations Unies, entre Israël et les Nations Unies.
Bah, le problème, si vous voulez, c'est que c'est pas un gros clash nouveau, quoi. C'est depuis 40 ans que ça dure, c'est-à-dire depuis 1967... Israël ne respecte aucune décision des Nations Unies, avec le soutien des États-Unis qui s'opposent, et souvent de la France d'ailleurs, qui opposent leur veto. Donc, je veux dire, il n'y a aucune décision des États-Unis qui est appliquée, ni sur le droit des réfugiés, ni sur la reconnaissance des accords d'Oslo, ni sur rien du tout, quoi, hein. Donc, ce n'est pas nouveau, ça, l'opposition d'Israël à l'ONU. Sauf que là, ça se passe en pleine catastrophe humanitaire. Il y a plus de 6500 personnes qui sont déjà mortes à Gaza sous les bombes israéliennes, et qu'il va en avoir certainement le double, triple, quadruple, quoi, hein, parce que là, on n'est qu'au début, il n'y a pas encore eu l'offensive terrestre. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire ? On est en train de nous dire, alors que des femmes qui sont en train d'accoucher attendent simplement pour pouvoir des générateurs, etc., et que bientôt il va y avoir plus d'électricité et plus d'eau, la position de l'ONU serait scandaleuse simplement parce qu'elle veut appliquer le droit humanitaire. Mais enfin, c'est une rigolade, quoi. Enfin, c'est pas une rigolade, d'ailleurs, c'est malheureusement très très grave et très sérieux, quoi.
Dites-moi, Patrick Farbias, justement, est-ce que cette démission peut être entendue aux Nations Unies lorsqu'Israël appelle à Antonio Guterres à la démission ? Est-ce que vous pensez qu'il y a un écho ? Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment une caisse de résonance ? Est-ce qu'il y a un écho à cela ?
Non, je pense que, si vous voulez, la grande majorité des États, c'est de quoi Israël est capable dans cette affaire, et donc n'a pas d'illusion. Donc je pense que ça n'aura aucune conséquence. Mais je pense que Guterres a eu raison de venir devant la frontière entre Gaza et l'Égypte, et affirmer la question du droit humanitaire. Parce que finalement, le droit humanitaire, on n'en parlait que quand il y avait des interventions américaines en Somalie ou ailleurs, et donc il avait été bafoué. Là, on est en train de retrouver un sens à ce que ça veut dire, le droit humanitaire, grâce à Guterres. Donc moi, je trouve que voilà, c'est plutôt bien ce qu'il a fait. Et bon, même s'il n'a pas de moyens de l'appliquer, c'est ça le problème, c'est que l'ONU aujourd'hui est une caisse de résonance, mais qui est vide, quoi, hein, c'est-à-dire qu'elle n'a aucun moyen d'imposer, parce que bon, il y a un système du Conseil de sécurité où il y a un veto de l'un ou de l'autre, et donc rien ne marche, quoi, hein. Et donc le problème, c'est de faire que l'Assemblée générale des Nations Unies puisse de nouveau avoir un pouvoir et puisse pouvoir appliquer et faire appliquer un certain nombre de décisions. Sinon, elle ne sert à rien, quoi. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est pas d'aujourd'hui d'ailleurs, c'est depuis des dizaines d'années, elle ne sert à rien, quoi.
Merci Patrick Farbias. Je le rappelle, vous êtes cofondateur de PEPS pour une écologie populaire et sociale, et vous avez fondé la semaine anticoloniale. Merci Patrick Farbias pour cet éclairage. Merci à vous et à très bientôt. Allez, je vais ouvrir l'antenne. D'abord, je marque une pause et on s'ouvre. On se retrouve, j'ouvre l'antenne tout de suite, là maintenant, pour vous entendre. On a Jean-Jacques du Drôme, Farid du 92, tous les autres 01 53 48 3000. Le standard est ouvert. Venez donner votre opinion, livrer évidemment tout cela ici même dans Les Informés. À tout de suite.
Les Informés reviennent dans un instant. 19h-20h. Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Et 19h19, c'est les auditeurs ont la parole. On va ouvrir l'antenne tout de suite parce que je voudrais vous entendre. C'est parti.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Avant de retrouver Jean-Jacques Dudrôme, et puis Farid, et puis Mokhtar, et puis tous les autres au 01 53 48 3000, je voudrais présenter notamment notre débattrice influenceuse, Sabrina Nouri. Bonjour Sabrina Nouri.
Bonsoir à toutes et à tous.
Présidente, fondatrice tout simplement de l'association Diplomatie Féministe. Bonjour.
Tout va bien? Eh bien, tout va bien. Dans quel sens?
Oui.
Oh, si on parle de l'actualité, pas trop, mais sinon, tout va bien.
On va en parler, d'accord? On accueille Jean-Jacques?
Allez, c'est parti.
Jean-Jacques, bonsoir. Bonsoir, Jean-Jacques. Oui, vous êtes de quelle ville?
Moi, je suis de Romans-sur-Isère, qui est à côté de Valence, donc un affrontière de la Drôme et de l'Ardèche.
Alors, bienvenue, on vous écoute, mon cher Jean-Jacques.
Alors, on est militants adhérents à l'association France-Palestine depuis plus de 20 ans. Le 5 novembre, on organise à la salle des fêtes, comme chaque année, un événement Solidarité pour la paix. Bon, normalement, le conseil d'administration a été reçu, vous savez, par les renseignements généreux de la préfecture de la Drôme. Donc, on pourra faire cet événement le 5 novembre.
Oui, bon, c'est une bonne nouvelle pour vous,
donc,
en tout cas pour l'association.
En plus, parce que dans les invités, en fait, on avait reçu à l'époque Salah Hamouri, qui se déplaçait en province. On avait reçu Laïna Belcharif, qui au moins sont des intellectuels de la cause palestinienne avec des échanges des Israéliens, non sionistes, voilà.
Que pour nous, Salah Hamouri, puisque vous le citez, un avocat franco-palestinien.
Et oui, que nous on l'avait reçu, il est venu deux fois de suite, même dans notre département, enfin, dans des conférences, et que 500 personnes étaient venues, dans des petits départements de province, même la cause palestinienne compte, mais c'est pas assez expliqué dans les médias nationaux, en fait. Bon, moi, j'essaie de, avec Vanessa, etc., elle a appris à me connaître sur différentes causes, mais cette question-là, vous savez, sur l'intervention de M. Macron, même nous à la FPS, on a attendu qu'est-ce qui allait se passer.
Qu'est-ce que vous pensez d'Emmanuel Macron, justement, durant son déplacement au Proche-Orient? Comment voyez-vous tout ça, vous-même?
Il fait du en même temps, c'est-à-dire qu'il propose cette coalition internationale, etc., pour la paix. Il faut quand même être clair qu'on soit d'un côté israélien ou palestinien.
Il y a Sabrina Nouri qui souhaite échanger avec vous. Allez-y, Sabrina, pourquoi vous dites non?
Je réponds juste non, c'est pas une coalition pour la paix qu'il demande. C'est pas ça, c'est une coalition internationale contre le Hamas, c'est différent.
Oui, contre le Hamas, oui.
Oui. C'est pas pour la paix, là.
Voilà. Mais nous, l'histoire de la France contre justement le nazisme qui existait, vous voyez, nous on n'est que occidentaux, musulmans ou pas, l'Europe a connu ça, les Pyrénées, voilà. Et là, le problème c'est que moi je n'ai pas pu aller dans la bande de Gaza, mais moi des militants y ont été plusieurs fois. Rien que le mur. Et même les checkpoints. Et d'ailleurs, il y a 3 semaines, des militants devaient partir à 50 dans la bande de Gaza en aide humanitaire. Bon, tout ça s'est arrêté. Ils n'ont pas pu partir dans la minute. À l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, ils n'ont pas pu partir. Et l'aide humanitaire, d'ailleurs, c'est aussi un problème. C'est que même M. Macron, pour l'instant, ne peut rien faire. Pourtant, c'est un chef d'État, ni l'Europe. Ni l'ONU, pourtant, qui interpelle, c'est que même les Palestiniens, les pauvres, disons-le, moi je le dis, dépendent pour l'électricité d'Israël, de l'eau d'Israël. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que je peux comprendre la colère.
Il n'y a pas que l'électricité, il y a l'électricité, il y a l'accès à l'eau, il y a l'accès à l'aide alimentaire. Bref, il y a une vraie mobilisation. Là, justement, il faut répondre à ce besoin urgent des Palestiniens en ce moment même. Et notamment l'ONU réclame évidemment ce qu'a provoqué la colère.
L'ONU, elle dit ce qui se passe pour ce peuple qui est 2,5 millions de personnes comme ça, qui n'ont plus rien.
L'ONU, surtout l'ONU.
Chez nous, ça arrive. Je ne sais pas comment la population va réagir.
L'ONU parle de violation du droit humanitaire à Gaza. Voilà, Jean-Jacques. Voyez.
Alors, je voulais vous dire, parce que nous, quand même, on a vite quand même une Israélienne qui s'est venue se réfugier en France, qui a quitté pour refuser de faire son service militaire, et après on reçoit quelqu'un quand même, une directrice du CNRS, sur justement même cette problématique de l'eau qui est la base de chaque être humain ou de terrien, vous voyez. Et même l'eau, elle dépend aussi d'Israël pour les Palestiniens de Gaza. En fait,
Sabrina Nouri, attendez, Jean-Jacques, justement, je voudrais poser la question. Lorsque il y a la colère d'Israël après les propos de Guterres sur les violations du droit humanitaire à Gaza, vous dites quoi, vous, justement, les Gazaouis et puis surtout les Palestiniens, on est en train, pas d'électricité, pas d'aide alimentaire, rien là, tout est fermé.
Non, mais là, on est clairement dans une situation, une impasse en fait, une impasse qui nous emmène tout droit vers une guerre qui serait mondiale. Je pèse mes mots. Oui. Il n'y a pas de solution militaire au conflit. Oui. Il faut une solution politique à travers une diplomatie qui applique une politique étrangère singulière, on l'a répété, souveraine, donc émancipée, c'est-à-dire non alignée. Ça fait maintenant 15 ans que nous ne sommes plus dans une diplomatie qui fonctionne sur une ligne de non-aligné.
Vous êtes inquiète là, parce que vous parlez carrément de
guerre mondiale. Ah oui, je suis très inquiète aujourd'hui. Oui, là, aujourd'hui, je suis très inquiète parce que le déplacement...
Qu'est-ce qui vous fait penser à cette guerre mondiale ?
Le déplacement de la présidente de l'Assemblée nationale avec la tenue des propos ahurissants sur le sol israélien. Aujourd'hui, on a Emmanuel Macron qui fait un voyage soi-disant pour la paix, mais on voit bien que en fait l'objectif est tout autre. Il va falloir qu'il s'explique clairement sur qu'est-ce qu'une coalition internationale contre le Hamas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'on engage des soldats français ? Des soldats françaises sur le territoire de Gaza ? C'est ça que ça veut dire ? C'est une question. Hein. Je n'ai pas la réponse parce qu'il n'a pas été clair dans ses propos. Donc, un peu de sérieux, de la sagesse et de la hauteur, nous refusons de façon catégorique et radicale la posture de la position guerrière, entre guillemets, du président.
Quand vous dites nous, c'est qui nous ?
Mais je pense que c'est le peuple français. Il n'y a jamais eu de sondage sur ce conflit. Moi, je pense que, au vu des manifestations qui commencent à naître, parce qu'au départ, c'était bien évidemment interdit par Darmanin. Oui. Heureusement que le Conseil d'État a retoqué la demande de Gérald Darmanin. Ah, oui. Vous avez vu la semaine dernière, dimanche dernier, cette magnifique, magnifique manifestation pour la paix. Donc place de la République, plus de 30 000 personnes. Voilà, plus de 30 000 personnes. Mais ça va venir. Le peuple français est d'accord avec cette façon de gouverner, avec une politique non alignée qui prône la paix. Là, malheureusement, ce n'est pas le cas.
Jean-Jacques, vous dites quoi ?
Nous, par exemple, dans la Drôme, on a pu faire la manifestation pour les Algériens pour le 17 octobre. Et le préfet, là, même pour 5 novembre, bon là, ils acceptent qu'on fait la conférence dimanche dans une commune, dans une salle des fêtes, qui a lieu chaque année depuis 25 ans, mais il nous a dit, vous ne faites pas manif avec les drapeaux palestiniens, même à Valence, voilà. Et bien, au Benat, par contre, ils le font quand même, il y aura beaucoup de jeunes, c'est une petite commune de l'Ardèche, ils vont le faire, parce qu'à Saint-Étienne, ils l'ont fait, à Lyon, ils l'ont fait, à Grenoble, ils l'ont fait, donc ici, nous, et pourtant, il y a des paysans, il y a des territoires reculés de la France. Ce peuple a le droit d'exister, il a toujours existé.
Donc on l'aura noté, voilà. Il faut noter le rendez-vous donc début novembre à Valence, hein, on est d'accord.
Je vais envoyer à BRFM, mais même nous, on dit c'est appel à la paix, à la liberté.
Mais pour les auditeurs de Valence, vous pouvez leur dire sur 107 FM, qu'est-ce que vous leur dites, le rendez-vous ? Rappelez-nous le rendez-vous et le lieu et l'horaire.
Alors, en fait, c'est à la salle des fêtes de Mours-Saint-Eusèbe le dimanche 5 novembre. Donc c'est dans la Drôme, hein, c'est à côté de, c'est à 20 km de Valence. On fait ça depuis 25 ans, mais là cette année on nous avait dit on ne sait pas. Bon voilà, bon maintenant ils ont dit qu'ils nous autorisaient à faire cette conférence. Ce sera plus simple, je vais tout vous envoyer par mail.
Et on le dira à l'antenne en direct, effectivement. Voilà. Merci Jean-Jacques de nous avoir appelé du Drôme.
Je vais vous dire. Oui. Même sur Monsieur Macron, on pensait. Comme il allait en Cisjordanie, etc., pour le peuple palestinien, qu'il soit de Gaza ou pas, pour l'ensemble du peuple palestinien qui représente quand même 14 millions de Palestiniens, parce qu'on ne parle que de la bande de Gaza.
Merci
en fait,
Jean-Jacques.
Le peuple palestinien, il représente 14 millions de Palestiniens.
C'est vrai.
Absolument. Israël en exil, etc. Et on va demander au Liban de faire des efforts, vous voyez. Mais le problème, c'est même la base de l'être humain comme des animaux, c'est l'eau. Même un animal, vous voyez ce que je veux dire, quand on nous dit on va tuer, enfin je suis désolé, mais la phrase d'entendre des sionistes dire on va tuer ces animaux, franchement, c'est qu'eux-mêmes, ils ne respectent pas les animaux. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, mais au bout d'un moment, on est en démocratie en France. Quand vous voyez qu'aux États-Unis, des Israéliens orthodoxes ont porté le drapeau de la Palestine à New York, au Canada, à Montréal, et en France, la semaine dernière, on nous interdisait même de parler du mot des Palestiniens. C'est-à-dire qu'il fallait à chaque fois dire oui, Palestine, mais d'abord Israël. Enfin,
merci Jean-Jacques, il y a beaucoup de monde qui nous appelle, hein, Jean-Jacques. On a beaucoup, beaucoup de monde, mon cher Jean-Jacques. Jean-Jacques, merci infiniment d'être intervenu. Je vais que, et au plaisir de vous retrouver. Au plaisir de vous retrouver. Oui. Bah, nous, on continue en tout cas d'informer. Merci Jean-Jacques. À bientôt. Merci à vous, à très bientôt. Farid du 92. Quelle ville du 92? Bonsoir Farid.
Oui, allô, bonsoir monsieur Adil Farkan.
Bonsoir, bienvenue, on vous écoute.
Alors j'appelle du 92. Hein.
Et comme vous êtes beaucoup, très nombreux à nous appeler, oui, je vais vous demander vraiment d'être bref, clair et précis pour tout le monde, s'il vous plaît.
D'accord,
évidemment, pour permettre à chacun d'entre vous de passer, parce que je voudrais passer le maximum de...
Je vais essayer de faire mieux que Jean-Jacques.
Allez-y.
Qu'est-ce que je voulais dire ? D'abord, je vous remercie infiniment encore une fois, une énième fois, monsieur Adil Farkan, de me donner la parole et de donner la parole à tous les auditeurs et auditrices de Beurre FM du monde entier, auxquels je passe le grand bonsoir et salam aujourd'hui. Ainsi qu'à madame Sabrina Nori qui est sur votre plateau.
Merci.
Et tout d'abord, je voudrais rappeler que je m'exprime encore une fois. J'ai essayé de m'exprimer hier, mais je n'ai pas pu passer à l'antenne, malheureusement.
Farid, heureusement que je vous ai dit qu'il faut être clair et précis, hein. Farid, heureusement que je vous ai dit qu'il fallait être précis et clair. Allez à l'essentiel de grâce, s'il vous plaît. On est inondé au standard. Allez-y.
Ce que je dis en amont, monsieur Adil Farkan, c'est très important pour qu'on comprenne tout ce que
allez-y,
je veux dire.
Allez-y, s'il vous plaît, monsieur Farid, allez-y.
C'est le message que je veux passer de paix, de calme et de sérénité, de calme que je veux passer. Alors, je voudrais rappeler que je voudrais redire que je m'exprime ce soir encore ce soir en tant que musulman français d'origine algérienne kabyle. Et que je voudrais redire encore sans relâche, c'est très important, que je suis pour le camp de la paix, de la vie et contre la guerre, la violence et la mort, qu'elle soit du côté du Hamas, encore une fois, ou qu'elle soit du côté de la droite et l'extrême droite, la coalition de droite et d'extrême droite israélienne fasciste de monsieur Benjamin Netanyahou. Et j'ai une pensée affectueuse pour les populations palestiniennes et les populations israéliennes qui n'y sont pour rien dans cette affaire, dans cette histoire de guerre, de conflit israélo-palestinien qui dure depuis 75 ans maintenant, depuis la création d'État d'Israël en 1948. Donc une pensée pour les mamans aussi, surtout palestiniennes et israéliennes, d'une part et d'autre part.
Sabrina Nouri, qu'est-ce que je voulais dire ? Attendez, Farid, il y a Sabrina qui voudrait dire un mot.
Oui.
Ouais. Allez-y, Sabrina Nouri.
Oui.
Je suis
entièrement d'accord
avec votre premier interlocuteur.
Oui.
Je ne parle pas de M. Jean-Jacques, avec lequel je suis d'accord, évidemment.
Mais il y a Sabrina Nouri qui voudrait dire quelque chose. Allez-y.
L'écologiste socialiste écologiste,
Patrick Farbiaz,
qui a parlé de l'intervention de monsieur le secrétaire des Nations Unies, général des Nations Unies à l'ONU, à l'Organisation des Nations Unies, concernant le droit humanitaire à Gaza. Et je suis tout à fait entièrement...
Bon, si vous êtes d'accord, c'est parfait. Si vous êtes d'accord, c'est parfait. Moi, ce que je voulais ajouter à tout ça, bien évidemment qu'on est on est en soutien avec le peuple palestinien et tous les Israéliens les familles qui ont été victimes du massacre. Moi, ce que je voulais dire ce soir, c'est que par rapport à l'intervention d'Emmanuel Macron, on attendait plusieurs choses. Mais on attendait une chose essentielle. Le cessez-le-feu.
Le cessez-le-feu.
Et voilà. On l'a pas eu.
Il en a parlé pourtant.
Non.
Non?
Non,
pas suffisamment.
C'est clairement Adil. Il faut pas.
J'ai un tweet sur
faut
les yeux,
pas mentir aux gens.
Bah attendez,
plusieurs interventions. Il a fait plusieurs interventions.
Cesser
le feu.
Nous devons collectivement tout faire pour éviter l'escalade, bâtir une initiative de paix et de sécurité, traiter les causes de ce que nous vivons. Je salue l'engagement de l'Égypte, en particulier sa mobilisation pour les populations de Gaza. À ses côtés, la France s'engage.
Ouais. Donc.
C'est son tweet.
Où est le cessez-le-feu ?
Éviter l'escalade et bâtir une initiative de paix et de sécurité.
Nous attendons un message de la diplomatie française
avec le président de l'autorité palestinienne,
un message
et durable et possible pour
cesser le feu clair, immédiat, avec un couloir humanitaire qui doit s'engager dans les plus brefs délais, la libération des otages et bien sûr, en conclusion, la discussion d'une solution à deux États. Rien ne peut empêcher Emmanuel Macron de demander, en tant que représentant de l'État de France, avec toutes les relations diplomatiques qu'il a à travers le monde, de demander un cessez-le-feu. Je rappelle que l'ONU le demande, Amnesty International a des rapports, a des chiffres, le demande. Pourquoi la France n'applique pas ce qu'elle a toujours été en termes de diplomatie, c'est-à-dire une diplomatie non alignée, une politique étrangère non alignée. Aujourd'hui, on a des va-t-en-guerre qui débarquent un à un sur le sol israélien et qui prônent, si vous voulez, la continuité des attaques, des bombardements. Pourquoi ce soutien inconditionnel à Israël ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Moi, je pense qu'il faut vraiment redescendre les tensions, avoir des mots d'apaisement. Et aujourd'hui, je suis désolée, quand il va en Cisjordanie, quand il va parler au monde arabe, est-ce qu'il est crédible aujourd'hui ?
Eh ben, on continue d'en parler.
Il ne l'est plus.
Sabrina Nouri, vous êtes la présidente fondatrice de la diplomatie féministe, mais également aussi LFI. Je reviens dans une poignée de minutes. On marque une pause. Je retrouverai Mokhtar, qui nous appelle de la ville du département du 93, Kamal Mohamed et tous les autres au 01 53 48 3000. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
19h41 précisément, et vous le savez, les auditeurs ont la parole, mais également Sabrina Nouri, qui est la présidente fondatrice de la diplomatie féministe, mais également aussi, elle représente par ailleurs aussi LFI. Je voudrais accueillir, vous savez quoi, Mokhtar. Et je donnerai la parole à Sabrina Nouri, puisque finalement, est-ce que ce déplacement au Proche-Orient du chef de l'État rassure le monde arabe ? C'est la question que je poserai à Sabrina Nouri. Mokhtar du 93, vous nous appelez de quelle ville du 93, Mokhtar ? Bonsoir. Mokhtar ? Mokhtar n'est pas là ? Une fois ? Deux fois ? Trois fois ? Merci Mokhtar, à très bientôt.
Allô ?
Ah ! In extremis Mokhtar. Il a sauvé sa voix. Vous nous appelez de quelle ville ?
Sevran.
On vous écoute Mokhtar, bienvenue.
Bienvenue et bonsoir à Sabrina.
Je vous écoute.
Voilà, je voulais juste demander. Bon, moi c'est ce que je fais. Depuis le début du conflit, quand ça a commencé, je ne regarde plus tout ce qui est CNews, BFM, tous ces trucs. Excusez-moi, hein, poubelle, pour pas citer leur nom. Je les écoute plus. Je les regarde plus. Je les écoute plus. Je vous écoute vous quand je rentre du travail. Mais je les écoute plus parce que
ça fait plaisir.
Non seulement ça fait mal au cœur et puis c'est énervant. Donc je préfère ne pas les écouter. Et puis maintenant, ça c'est mon avis. Attention, je n'engage pas la radio. Si le Hamas c'est des terroristes, je cautionne pas ce qu'ils ont fait le 7 octobre. Hein, je condamne. Hein. Mais si le Hamas est considéré comme c'est des terroristes, les FFI en France et Jean Moulin, c'était des terroristes. Pour moi, c'était des terroristes. Voilà. Les FFI, les auditeurs, ils ont qu'à regarder sur le dictionnaire, ils verront ce que c'était que les FFI. Voilà. Bon. C'est tout ce que je voulais dire, et puis bonne soirée.
Et bien,
encore une fois, ne pas regarder tout ça. Regardez Netflix, regardez le foot, mais ne plus
chacun
regarder...
Chacun est libre. Voilà. Merci Mokhtar pour cette intervention. Voilà, merci voilà. Sabrina Nouri.
Allez,
d'abord, question avant de retrouver Mohamed du 75. Dites-moi, finalement, Emmanuel Macron, est-ce qu'il rassure avec ses mots, avec ses déclarations, le peuple, le monde arabe ?
Mais le monde arabe l'a bien regardé quand il a fait sa déclaration avec le président israélien, avec
président
Monsieur
Herzog.
Netanyahou. Avec cette, il s'est tout de suite engagé à faire une proposition qui est sortie bien évidemment du chapeau comme à son habitude. Ça, c'est la marque de fabrique d'Emmanuel Macron. On dit, ensuite on réfléchit au lieu de faire l'inverse. Créer une coalition internationale pour aller éradiquer le terrorisme, c'est-à-dire le Hamas. Donc au même titre que Daesh, de ce qui s'est passé en Irak, etc. Moi, on marche sur la tête. Et donc ces déclarations.
Pour le monde arabe.
Donc, ces déclarations sont venues ce matin. Et ensuite, il fait un déplacement en Cisjordanie pour, soi-disant, rassurer le monde arabe. Est-ce que vraiment vous pensez, sincèrement, que cette situation est sérieuse, que son déplacement, que ses mots, que ses gestes envers le monde arabe est sérieux, crédible? Moi, je pense que plutôt le monde arabe se fiche d'Emmanuel Macron. Et aujourd'hui, malheureusement, et à mon grand regret, se fiche totalement de la diplomatie française. Est-ce qu'aujourd'hui, la diplomatie française est crédible, a une voix qui porte?
C'est vos propos. Ah, c'est
écoutez,
votre opinion.
Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est très, très, très difficile.
Oui.
Et je ne sais pas si le monde arabe est rassuré des propos d'Emmanuel Macron qu'il assure sur une position de va-t-en
en
guerre.
Eh bien, on va observer tout ça, effectivement. Je vais accueillir Mohamed qui nous appelle de Paris. Bonsoir, Mohamed.
Et bonsoir tout le monde.
Bienvenue mon cher Mohamed, on vous écoute.
Bonsoir, merci de me donner la parole. Donc,
avec plaisir.
Je vais être bref et précis. Hein,
voilà un auditeur qui a saisi effectivement la dimension.
Oui, rapide. Moi, je voulais justement m'exprimer sur l'intervention de Emmanuel Macron à Tel Aviv et en Cisjordanie avec Mahmoud Abbas. Donc en fait, c'est de la poudre de perlimpinpin tout ça. Hein. Il voulait juste calmer le peuple, surtout son peuple français, qui commence un peu à grogner sur un cessez-le-feu qui est pas demandé, mais pas du tout même.
Pas du tout.
Donc en fait, pas du tout. Donc là, pour calmer le peuple, il parlait d'un État palestinien, de la création d'un État palestinien. Et donc, c'est mon avis, encore, bon, si j'ai envie de le dire aussi, ça n'engage que moi, c'est juste pour calmer la grogne des différentes populations, notamment musulmanes, de France sur les futures encore sur les futures manifestations qui attendent de la France c'est incroyable donc comme on disait tout à l'heure il n'a pas du tout demandé un cessez-le-feu et ça on ne comprend pas pourquoi je réponds aussi à Sabrina quand elle disait mais on ne comprend pas pourquoi la France soutient tellement Israël, c'est tout simplement parce qu'à l'époque du régime nazi et bien sous le régime Vichy et sous Maurice Papon quand il était préfet à l'époque la France a participé au génocide juif et la France a été complice de ce massacre. Donc là, voilà pourquoi ils se rachètent aujourd'hui. Ils sont à fond derrière Israël, mais à fond derrière parce qu'ils peuvent être condamnés pour crimes contre l'humanité si jamais Israël ressort un petit peu des dossiers que la France a pu avoir à l'époque.
Ça fait une façon. Et ben merci,
donc,
mon
moi,
cher Mohamed.
Malheureusement, je n'y crois pas à cette future paix. Malheureusement, hein, j'espère vraiment me tromper. Là, c'est vraiment par rapport à ce qui se passe. Par contre, Emmanuel Macron, il n'a pas oublié, et là, par contre, il a eu bien les yeux bien ouverts lorsqu'il a déclaré que le Hezbollah et que l'Iran n'ont pas intérêt à ouvrir un deuxième front. Sinon, on a bien compris les menaces qu'il a avancées en Tel Aviv et en Cisjordanie. Ça, par contre, il a pas oublié de le dire. Pour un cessez-le-feu, il n'a pas dit, mais pour menacer le Hezbollah.
Mohamed, merci pour, évidemment.
C'est moi qui vous remercie. C'est moi
et
vous
merci
remercie.
Pour votre fidélité. Merci à vous.
De rien.
Je vais accueillir Kamel. J'ai une minute pour vous. Ça vous va, Kamel? Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Alors, bonsoir, bienvenue. Vous nous appelez de Paris. On vous écoute.
Oui. Bon, je vais aller vite. On peut rien attendre de Macron, tout simplement parce que la France, les Américains, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'Israël colonise, mais ils font tous pareil. Le monde arabe, c'est les Américains qui gèrent. L'Afrique noire, c'est la France, avec le Mali. Bon, le Mali, maintenant, ils ont fait des guerres pires, le Niger, tout ça. Voilà, ils ont tous leurs colonies, en vérité. Ils n'ont peut-être pas leurs colonies de la même façon qu'Israël, en occupant des terres, mais c'est-à-dire qu'ils prennent les richesses de l'Afrique noire pour pareil pour les Américains avec l'Irak, ils ont pris le pétrole en Libye, pareil. Alors ce que je veux dire, c'est que ce qui me dégoûte moi, c'est l'ONU.
Oui.
L'ONU, c'est une fabrication des Américains. L'ONU travaille au service des Américains en vérité.
Et pourtant, mon cher Kamel, le secrétaire général de l'ONU a fait une déclaration quand même sur les violations du droit humanitaire à Gaza. Donc ça a valu d'ailleurs la colère d'Israël. Hein.
Écoutez, c'est du cinéma tout ça. Ils sont obligés de dire quelque chose. Réfléchissez, ils sont obligés de dire quelque chose pour passer pour être valable.
Alors
pour
je vais laisser.
Crédible.
Kamel,
attendez,
je vais laisser.
Je finis une phrase, monsieur,
vous avez 10 secondes, non, c'est pas ça, c'est parce qu'on est pris par le temps, je suis désolé, c'est
oui,
pour
oui,
ça.
Oui, oui, oui.
Allez-y.
Vous plaît, s'il vous plaît.
Alors, 5 secondes, allez-y.
Regardez, pourquoi si l'ONU, vous me dites que l'ONU a fait une déclaration, pourquoi ils font pas comme Poutine? Ils ont mis un mandat d'arrêt pour Poutine. Pourquoi ils mettent pas un mandat d'arrêt à Benyamin? C'est une colonisation ou pas?
En tout cas, vous soulevez une question et je vais laisser Sabrina Nori répondre effectivement à ce que tout ça, comme il dit. Merci Kamel pour votre intervention. Avant, d'une phrase sur le fait qu'il n'y croit pas du tout aux déclarations du secrétaire général de l'ONU. Il prend des risques quand même, le secrétaire général.
Il y a eu des propositions de résolution, il y a eu des votes, on a vu qui a voté pour, qui a voté contre sur ces résolutions. Une résolution qui a été emmenée par la Russie.
Ah oui, surtout qu'Israël aujourd'hui appelle Antonio Guterres à la démission.
On voit bien qui est du côté d'Israël, entre guillemets, et puis qui ne l'est pas. Maintenant, l'ONU, elle prône la paix et elle est alignée sur le droit international.
On y va, le Quoi de Neuf, c'est parti.
Les informés. Le Quoi de Neuf,
c'est avec le docteur Majid Soussine. Bonsoir, mon cher docteur.
Bonsoir, Adil.
Ravi de vous retrouver. Je vous lance avec votre billet d'humeur concernant, vous savez quoi, le déplacement d'Emmanuel Macron au Proche-Orient. On vous écoute.
Bah, écoutez, mon cher Adil, je tremble. Emmanuel Macron est au Proche-Orient. Poissard comme il est, il risque de nous déclencher une catastrophe mondiale. En plus, il tente son fameux numéro d'équilibriste qu'il rate si bien, un espèce d'en même temps dans l'Orient compliqué. Et lui aussi est un peu pris au piège. Comment soutenir Israël, victime d'une agression contre sa population civile, sans s'éloigner de la position traditionnelle de la France, avec un secret désir, sans doute, de marcher dans les pas de Jacques Chirac, ce que visiblement est raté quand on voit ses portraits que l'on brûle à Ramallah. Il comptait être génial avec cette idée de coalition internationale contre le Hamas, qui a dû lui être soufflé par Alexis Kohler, jamais sorti du 7e arrondissement et enfermé dans le salon vert l'Élysée depuis 6 ans. Il ne sort de l'Élysée d'ailleurs que pour se rendre chez son avocat. Mais c'est oublié qu'un certain nombre de pays, membres de la coalition contre le Daesh, n'ont pas désavoué le Hamas. En tout cas, il fait mieux, beaucoup mieux, que Yael Braun-Pivet, qui a déclaré, sans nuance, être porteuse d'un soutien inconditionnel de la France à Israël. Je me demande si un journaliste aurait le courage de poser la question à la présidente de l'Assemblée nationale de savoir si elle soutient Israël quand elle tue près de 6000 civils dans des bombardements, dont plus de 2000 enfants gazaouis. C'est triste à dire, mon cher Adil, mais on va finir par aspirer à un grand massacre pour calmer les ardeurs guerrières des faucons de Tsahal et de la Knesset et retourner l'opinion européenne et occidentale qui finira peut-être par regarder la réalité d'Israël, qui n'a rien d'une démocratie occidentale classique, contrairement à ce qu'on nous dit, car c'est une théocratie, après tout, qui se proclame État juif, et dont le gouvernement actuel contient un certain nombre de suprémacistes qui sont, de surcroît, homophobes, des intégristes, racistes, en un mot. Ça n'excuse bien sûr en rien la barbarie des massacres du Hamas, car une vie vaut une vie, quelle que soit la couleur ou la religion. Et le médecin que je suis a pu constater, aux raisons de ces maladresses répétées, que tous les hommes ont le même sang qui coule dans les veines. Pendant ce temps, les Chinois, eux, continuent leurs petites affaires, limogeant une partie du gouvernement sans que personne ne se pose la question de comprendre ce qui se passe en Chine à l'heure actuelle. Et Poutine, quant à lui, poursuit sa guerre en Ukraine. Il paraît que tous les deux font des virements de Western Union au Hamas pour les remercier de cette couverture qu'on leur a offerte.
Clochette, tiens.
Et pendant ce temps-là, la fonte des glaces en Arctique se poursuit. Il semblerait qu'elle soit désormais irréversible. Et j'ai une idée qui me vient. Si une terre venait à émerger une fois que la glace aurait fondu, pourquoi on n'y mettrait pas les Palestiniens? Ça arrangerait tout le monde, non?
Ah ouais, ouais, une grande question. Sabrina, non, hein, pas trop.
Oh non, non, non.
Pas trop, hein, on est d'accord. Hein. Merci mon cher docteur Majid Soussine. Bravo pour ce billet d'humeur. On se retrouve la semaine prochaine avec autant de plaisir.
Avec autant de plaisir, et toi?
Et tu vois,
la semaine prochaine, nous serons à la Toussaint.
Exactement. Donc,
et malheureusement, c'est la fête des tous les saints qui précède la fête des morts. Et malheureusement, les morts sont à la fête au Proche-Orient en ce moment.
Exactement. Merci mon cher docteur, portez-vous bien. Et Sabrina Nouri, le mot de la fin. Vous venez d'entendre les auditeurs qui sont inquiets, comme vous aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire et qu'est-ce que finalement on retient en 5 secondes avant de rendre l'antenne?
En 5 secondes, premièrement, j'espère que le voyage d'Emmanuel Macron ne va pas engendrer des difficultés et une escalade de la violence guerrière, premièrement. Et puis deuxièmement, pour mon mot de la fin, je voudrais l'adresser à l'ambassadrice palestinienne de France, Alaa Abou Issari, et je lui adresse tout mon soutien. Voilà, c'était mon mot de la fin.
C'était Sabrina Nouri, la présidente fondatrice de Diplomatie Féministe, mais également elle représentait les filles. Merci à Solal à la réalisation. Bilal Edman, 20h, 21h, 21h, 23h, c'est Vanessa. Quant à moi, demain, avec autant de plaisir. Allez, je vous laisse le mot de la fin.
On ne lâche rien.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.